Alors, voilà, j'ai servi pour vous d'ambassadeur. Et cet après-midi, on va regarder ensemble un texte que j'ai préparé spécialement pour aujourd'hui, dans Luc au chapitre 12, versets 35 à 48. Et avant de rentrer dans le texte, je voudrais le situer dans son contexte. Parce que ce que Jésus nous enseigne à partir du verset 1er du chapitre 12 va certainement avoir une influence sur le texte que nous allons voir, c'est-à-dire les versets 35 à 48. Donc je vais essayer de faire un petit résumé de ce début du chapitre 12 de Luc. Alors, à partir du verset 1er jusqu'au verset 12... Ah, ben ça marche avec la roulette. Non, ça marche, c'est bon. Je vais essayer encore. Oui, c'est ça, ça marche. Alors, dans Luc, au chapitre 12, versets 1 à 12, Jésus, au verset 8, encourage les disciples à prendre position pour lui, à le choisir. Je vous l'assure, au verset 8, tous ceux qui se déclareront pour moi devant les hommes, c'est-à-dire qu'ils prendront position pour moi devant les hommes, le Fils de l'homme aussi se déclarera pour eux devant les anges de Dieu. Mais celui qui aura prétendu devant les hommes qu'il ne connaît pas, qu'il ne me connaît pas, je ne le reconnaîtrai pas non plus devant les anges de Dieu. Donc Jésus veut nous encourager à prendre position vis-à-vis de lui, à nous déclarer en faveur de Jésus. Et les paroles de Jésus sont prononcées dans un contexte où les disciples pourraient être persécutés, puisque au verset 11, Jésus va mettre ses paroles dans le contexte suivant. « Quand on vous traînera dans les synagogues, devant les dirigeants et les autorités, ne vous inquiétez pas au sujet de ce que vous aurez à dire pour votre défense, ni de la manière dont vous la présenterez. Le Saint-Esprit vous enseignera à l'instant même ce que vous devez dire. » Donc Jésus est en train de dire « Prenez position publiquement pour moi, même si vous risquez d'avoir peur d'être persécuté. » C'est ça que Jésus dit. Je ne sais pas si vous avez déjà eu peur de prendre position pour le Seigneur publiquement. Peut-être à votre travail ou dans un repas de compagnie, je ne sais pas. Et puis la discussion roule sur la religion, c'est la foi. Et puis vous êtes peut-être un peu retenu en disant « Ouais, mais si je m'identifie comme chrétien, comment les gens vont-ils me percevoir ?» Tu sais, on a des craintes, hein. Mais Jésus dit, même si la possibilité d'être persécuté existe, déclarez-moi devant les gens. Et le verset 6 et 7 nous donne une raison à cela, parce que Jésus, Dieu, prend soin de nous. C'est ce que Jésus dit au verset 6 et 7. Ne vendons pas 5 moineaux pour 2 sous, c'est-à-dire c'est pas grand-chose à 2 sous, hein. Et pourtant, Dieu prend soin de chacun d'eux. Bien plus, même les cheveux de votre tête sont comptés. N'ayez aucune crainte, car vous avez plus de valeur que toute une volée de moineaux. Alors ce verset, je m'en souviens à chaque fois que je vais chez le coiffeur. Parce que quand elle coupe mes cheveux, puis elle coupe les cheveux de ma femme, la coiffeuse nous dit « Ah, vous avez des cheveux épais, tu sais. » Ben, je me dis « Oui, c'est vrai, on a peut-être des cheveux épais, mais le Seigneur, il connaît tous les cheveux que nous avons sur la tête. » Et il prend soin de nous. Et il prend soin de nous, alors qu'il prend soin aussi des plus petits oiseaux. Alors, à combien plus forte raison, il va prendre soin de nous, nous qui sommes pour lui la prunelle de ses yeux. Donc, ça, c'est le premier aspect du début du chapitre 12. Jésus nous encourage à le choisir publiquement. Et ça, ça va avoir un lien avec le texte que nous allons regarder ce matin. Deuxième élément du contexte, à partir du verset 13, Jésus va parler des richesses, du désir de posséder. Il y a un homme qui s'approche de Jésus, puis il dit « Maître, dis à mon frère de partager avec moi l'héritage que notre père nous a laissé. » Sois un peu le juge entre nous deux. Là. Et, moi aussi, j'aimerais bien avoir ma part. Là, tu sais. Mais Jésus précise en disant « Moi, personne ne m'a établi pour être votre arbitre en matière d'héritage. Tu » sais. Et Jésus, au verset 15, va dire « Gardez-vous avec soin, selon la Bible du Semeur, gardez-vous avec soin des trésors terrestres, n'est-ce pas, du désir de posséder. Et Jésus, il emploie des termes assez intéressants, car il nous dit, gardez-vous avec soin. Donc ça veut dire que le désir de posséder est tellement réel que nous devons prêter une attention particulière à notre cœur par rapport au désir de posséder. Et non seulement Jésus ajoute avec soin, pour compléter le sens du verbe, gardez-vous, mais il dit du désir de posséder sous toutes ses formes. C'est-à-dire que le désir de posséder peut se manifester de différentes façons. En fait, vous pouvez être pauvre et avoir le désir de posséder. Vous pouvez être riche et avoir le désir de posséder. Et peut-être ce désir de posséder ne va pas se manifester de la même manière, mais ça va être tout de même le désir de posséder. Donc Jésus nous dit, toujours dans le verset 15, non seulement de faire attention, ah, j'étais en retard sur mes diapos, donc il faut que je fasse attention. Donc Jésus va nous dire que la vie ne dépend pas de nos biens, verset 15, la deuxième partie du passage. Car la vie d'un homme, si riche soit-il, ne dépend pas de ses biens. Et Jésus va terminer au verset 21, et c'est au verset 21 que nous retrouvons un petit peu le titre que j'ai choisi pour cette portion du texte, c'est « Être riche pour Dieu ». Donc, faites attention au désir de posséder, prêtez une grande attention à cela, car votre vie ne dépend pas de vos biens, mais au contraire, recherchez à être riche auprès de Dieu. Donc il y a une richesse qui est légitime. Il y a une richesse qui n'est pas légitime. Et les valeurs du monde consistent à dépendre, à utiliser toute notre énergie pour acquérir des biens. Hein? C'est le but des gens dans la société, les gens du monde. Alors que Jésus nous dit, ayez une autre valeur. Cherchez à être riche, mais oui, auprès de Dieu. Donc, vous pouvez être pauvre aux yeux du monde, mais vous pouvez être riche aux yeux de Dieu. Vous voyez comme les valeurs sont renversées. Alors, dans ce passage de Luc 12, nous avons aussi, dans les versets 22 à 34, deux antidotes à l'inquiétude. Alors, c'est dans la mesure où on comprend ce que nous dit le début du chapitre 12 de Luc, que nous pouvons mieux mettre en pratique le texte qu'on va étudier. Alors regardons dans les versets 22 à 34 ce que Jésus nous dit concernant les antidotes à l'inquiétude. Est-ce que vous êtes déjà inquiété dans la vie? Lui qui me fait ça, lui, moi je m'inquiète pour ma femme. Puis sa femme, elle regarde, moi je m'inquiète pour toi. C'est vrai qu'on peut s'inquiéter pour les gens qu'on aime, n'est-ce pas? Pour nos enfants. Mais surtout, les gens s'inquiètent pour l'avenir. Et c'est ce à quoi Jésus fait allusion dans ce passage. Au verset 22, il nous dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas en vous demandant, qu'est-ce qu'on va manger? Comment allons-nous nous habiller? Jésus est en train de parler de nos besoins fondamentaux. Si dans l'esprit des gens, il y a une raison, une bonne raison de s'inquiéter, c'est au sujet des biens fondamentaux, c'est de nos besoins fondamentaux. T'sais. Mais comment ça, tu ne t'inquiètes pas de tes besoins fondamentaux? Jésus ne nous dit pas de ne pas travailler pour la nourriture ou les vêtements, ce n'est pas ça qu'il dit. Mais Jésus est en train de dire, ne mettez pas tellement l'accent là-dessus que vous êtes inquiet. Vous êtes tout le temps dans l'inquiétude. Il vient de dire qu'il prend soin des moineaux là, qui ne coûtent pratiquement rien. T'sais. À combien plus forte raison il va prendre soin de nous. Donc la première antidote à l'inquiétude, nous dit Jésus, c'est de comprendre que Dieu, dans sa providence, prend soin de sa création. La doctrine de la providence de Dieu, c'est peut-être pas la doctrine la plus étudiée, mais elle est tout à fait réelle dans la Bible. En fait, Jésus va parler des corbeaux au verset 24. « Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'ont ni cave ni grenier pour entasser leurs biens et faire des provisions, mais Dieu les nourrit. Et vous, vous valez bien plus que les corbeaux. C'est... Alors, Jésus va d'ailleurs dire au verset 25, « Qui de vous, par ses inquiétudes, peut prolonger son existence, ne serait-ce de quelques instants ?» C'est des fois, on veut tellement vivre qu'on s'inquiète de tellement de choses, alors qu'on ne changera rien avec nos inquiétudes, absolument rien. Quand le Seigneur va nous rappeler à lui, il va nous rappeler à lui. C'est aussi clair que cela. Si donc, nous dit Jésus au verset 26, vous n'avez aucun pouvoir sur ces petites choses, pourquoi vous inquiétez-vous au sujet des autres? Hein? On ne peut pas s'inquiéter, on n'a pas de pouvoir dans les petites choses. Pourquoi on devrait s'inquiéter dans les plus grandes? Et il nous demande de considérer les lys des champs que le Seigneur habille. Et si Dieu habille ainsi cette petite plante dans les champs, qui est là aujourd'hui, et qui demain sera jeté au feu, à combien plus forte raison vous vêtira-t-il vous-même? Et Jésus, de conclure ces paroles, cette section auquel il fit référence à la nature, aux oiseaux, aux lys des champs, en disant « Ah, votre foi est bien petite. » Votre foi est bien petite. Alors voilà, le premier antidote aux inquiétudes, c'est de bien comprendre la provision de Dieu. À combien plus forte raison Dieu va pourvoir dans sa providence pour nous, parce qu'il pourvoit pour sa création. Et nous, on vaut bien plus que sa création. Hein? La Bible nous dit que nous avons de la valeur, comme Dieu nous considère comme la prunelle de ses yeux. C'est bien quelque chose qu'on protège, c'est bien nos yeux. T'sais. Quand vous bricolez, là, il faut mettre des lunettes. T'sais. Moi, j'ai une scie, puis quand j'ai acheté ma scie ronde, là, j'ai aussi acheté des lunettes assez grosses pour pouvoir les mettre au-dessus de mes lunettes. Comme ça, j'y vois bien en même temps, tu sais. Mais pour protéger mes yeux. Donc, nous faisons très attention à nos yeux. Et le Seigneur nous considère comme la prunelle de ses yeux. Il fait très attention à nous, vous vous rendez compte? Le deuxième antidote, c'est de chercher le royaume de Dieu. Et c'est ce que le verset 21 nous présente. Le verset 21, est-ce que c'est 21? Non, c'est pas 21, c'est un peu plus loin. Voilà. 31, excusez-moi. Donc, toutes ces choses, nous dit Jésus, ce sont les païens qui s'en préoccupent. Puis il ajoute, sans cesse, c'est leur style de vie. Les païens s'inquiètent, ils se préoccupent de toutes ces choses-là. Mais Jésus nous dit, faites plutôt du royaume de Dieu votre préoccupation, ou, selon les paroles habituelles que nous connaissons, cherchez d'abord, comme dit Matthieu, le royaume de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données en plus. Donc, deuxième antidote à l'inquiétude, c'est de chercher le royaume de Dieu. Vous savez, j'ai le privilège, je ne sais pas si je suis très content d'avoir ce privilège, j'ai le privilège de pouvoir regarder en arrière, c'est plusieurs décennies de ma vie, tu sais. Donc ça veut dire que je suis déjà un peu vieux, là, mais je ne suis pas trop vieux, hein, ne vous y trompez pas. Luc, on peut encore jouer au tennis si tu veux. Quand j'étais étudiant à Toronto, eh bien, on vivait avec le minimum d'argent. Puis je regardais mes beaux-frères, mes belles-sœurs, et puis notamment la sœur de Marie-France qui vient après elle, et puis ils avaient acheté une belle maison, lui était comptable et tout, et puis ça roulait bien leur vie, t'sais. Puis je me disais, ah, moi je suis étudiant, là, t'sais, là. Est-ce qu'un jour je pourrais avoir tout ça, t'sais, ou un petit peu de tout ça, peut-être pas tout. Mais je peux vous dire que le Seigneur a vraiment pris soin de nous. On l'a servi, on ne s'est pas vraiment préoccupé d'argent, on ne s'est pas préoccupé d'amasser, c'est comme le monde, mais je regarde en arrière, puis je me dis, le Seigneur avait tout préparé. Il avait même préparé à l'avance les moments qu'on est en train de vivre maintenant. Et je suis sûr qu'il a préparé aussi à l'avance demain, ce que nous allons vivre demain, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que nous avons voulu nous préoccuper, même imparfaitement, hein, on est tous imparfaits, du royaume des cieux. Donc le royaume de Dieu va s'occuper de tous ceux qui cherchent premièrement le royaume de Dieu. Donc ne nous inquiétons pas, remettons-lui toute chose. Alors ce matin, je voudrais regarder avec vous ce texte de Luc chapitre 12, versets 35 à 48, qui parle du retour de Jésus. Alors quand Christian m'a demandé un titre, je lui ai envoyé un titre, mais je lui ai dit, ça se peut que ça change. Ben, ça change, ça a changé un peu, mais c'est toujours dans la même veine. Le titre que j'ai donné, c'est « Es-tu prêt pour le retour de Jésus ?» Est-ce que tu es prêt ? Et le texte se divise en deux parties. Premièrement, dans les versets 35 à 40, Jésus va parler d'un serviteur fidèle et il va aussi faire allusion à un propriétaire de maison. Donc il va parler de deux situations. Ensuite, il y aura un verset de transition, c'est-à-dire au verset 41, ça va être le verset de transition. Pierre pose à Jésus une question. Mais la parabole que tu viens de nous dire sur les serviteurs fidèles, est-ce que ça s'applique seulement à nous ou ça concerne tout le monde ? Puis Jésus ne va pas répondre directement, mais à partir du verset 42 à 48, il va parler de la récompense du serviteur fidèle et il va parler aussi de châtiment. Et dans ces quelques versets, 41 à 48, Jésus va répondre à la question de Pierre, même si c'est d'une façon indirecte. Alors, avant de regarder le texte, je voudrais vraiment revenir à tout ce qu'on a vu jusqu'à présent en rapport avec l'évangile du chapitre 12 de Luc. Tu ne peux pas être prêt pour le retour du Seigneur si tu ne choisis pas Jésus. Si publiquement tu ne prends pas position pour le Seigneur, ça va être difficile pour toi d'attendre, d'être prêt et d'attendre correctement la venue du Seigneur. C'est relié tout ça. L'autre élément, c'est que si tu ne désires pas être riche pour Dieu et que ton désir de posséder prend la place dans ta vie, tu ne pourras pas être un serviteur fidèle qui attend la venue de son maître. Tu vas te préoccuper d'autre chose, c'est certain. Tout est lié dans ce chapitre 12 de Luc. Tu ne pourras pas non plus être un serviteur fidèle qui attend le retour du maître si tu ne cherches pas le royaume de Dieu. Parce que chercher le royaume de Dieu, ça consiste notamment à attendre le retour du maître. Alors tout est lié. Et de plus, dans ce passage, le verset 34 nous présente un élément très important. Le verset 34 nous dit, il conclut tout ce qui a été dit depuis le début du chapitre 12, « Là où est votre cœur, là aussi sera... » Pardon, « Là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. » Si ton cœur est placé au bon endroit, tu vas attendre le Seigneur. Si ton cœur n'est pas placé au bon endroit, ça va être très difficile pour toi d'attendre avec fidélité la venue du Seigneur. Donc le retour de Jésus, l'attente du retour de Jésus, c'est aussi une question de cœur. Alors ce matin, c'est une bonne occasion de nous poser la question suivante. Quel est l'état de mon cœur vis-à-vis de toi, Seigneur ? Où est-ce que j'en suis vis-à-vis de toi ? Est-ce que vraiment je t'aime de tout mon cœur ? Ou est-ce que je suis distrait par toutes sortes de choses ? Les richesses, les persécutions, les inquiétudes. Quelle est la place de tout cela dans mon cœur et qui m'empêche de placer mon cœur au bon endroit pour pouvoir attendre le Seigneur ? Véritablement. Donc on va lire ensemble ces quelques versets, mais par bloc, que je vais donc commenter. Mais auparavant, on va prier. Seigneur notre Dieu, merci pour cette parole, merci pour ce texte, merci pour ces rappels de Jésus, merci parce que Jésus nous enseigne, Jésus dévoile l'état de notre cœur, Jésus pose les bons diagnostics. Seigneur, fais que par ce texte, ce matin, nous puissions être encouragés, à t'attendre avec fidélité. Nous te le demandons, Seigneur notre Dieu. Amen. Comment être prêt ? Eh bien, les versets 35 à 40 nous l'indiquent. On va les lire ensemble. Les versets 35. Alors, je lis dans la Bible du semeur, qui utilise le principe de la traduction équivalente, au lieu de faire des traductions littérales, il nous traduit le texte en utilisant des équivalences. Mais le sens est le même. Au lieu de dire qu'il faut saigner ses reins, comme dit la colombe, les versions de second, là, hein, Ouais, cindre, saignez vos reins. Ou, il faut cindre ses reins. La Bible du Semeur nous dit, restez en tenue de travail. C'est la même chose. Ils auraient pu dire, ben, retroussez vos manches. T'sais? Peut-être que retrousser vos manches aurait été un petit peu moins fort que de mettre toute une tenue de travail. T'sais? Restez en tenue de travail, gardez vos lampes allumées. Verset 36, soyez comme des serviteurs qui attendent le retour de leur maître, partis pour une noce. Dès qu'il arrive et qu'il frappe à la porte, il lui ouvre. Heureux ces serviteurs que le maître en arrivant trouvera en train de veiller. Vraiment, je vous l'assure, c'est lui qui se mettra en tenue de travail, les fera asseoir à table et passera de l'un à l'autre pour les servir. Peu importe qu'il rentre à minuit ou vers 3 heures du matin, heureux ces serviteurs qu'il trouvera ainsi vigilants. Vous le savez bien, si le maître de maison savait à quel moment le voleur va venir, il ne le laisserait pas pénétrer dans sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts, car c'est à un moment que vous n'auriez pas imaginé que le Fils de l'homme viendra. Comment être prêt pour le repas du Seigneur? Je voudrais vous le présenter en 4 aspects. Premier aspect, c'est d'avoir la certitude du retour du Seigneur. Est-ce que vous avez la certitude que le Seigneur va revenir? Ou est-ce que vous êtes un peu branlant concernant cette doctrine-là, ce sujet-là? Mais nous pouvons être sûrs que le Seigneur va revenir parce que l'Ancien Testament et le Nouveau Testament l'enseignent. John MacArthur nous dit qu'il y a plus de 300 prophéties dans l'Ancien Testament, dont à peu près plus de 100 qui concernent sa première venue et un peu moins de 200 prophéties qui vont s'accomplir à son retour. Bon, moi, je n'ai pas fait la vérification, je n'ai pas compté tout ça, mais si on suit à ce que John MacArthur nous dit, le thème de la venue du Messie puis de son retour est quand même présent dans l'Ancien Testament. Ensuite, dans le Nouveau Testament, Kent Hughes, dans son commentaire aussi, nous dit que, vous le savez, il y a à peu près 250-260 chapitres dans le Nouveau Testament. Le retour du Christ est mentionné pas moins de 318 fois, soit un ratio de 1 verset sur 25. Quand même, 1 verset sur 25, c'est pas mal, c'est pratiquement au moins une fois par chapitre. Il y a seulement l'Épître aux Galates, qui ne mentionne pas le retour du Seigneur, donc 6 chapitres, je pense, et les deux épîtres, petites épîtres, 2 Jean et 3 Jean, c'est tout. Tous les autres livres nous parlent du retour du Seigneur. Donc, avons-nous la certitude du retour du Seigneur? Ben, si nous connaissons la Bible, si nous reconnaissons la Bible comme parole de Dieu inhérente, sans erreur, eh bien, nous pouvons être rassurés, le retour du Seigneur aura véritablement lieu. Mais Jésus et Paul aussi ont enseigné sur le retour du Seigneur. Je ne vais pas citer tous les versets à ce sujet, parce qu'on n'en finirait plus. Mais vous rappelez le texte dans Jean 14, quand Jésus nous dit, dans Jean 14, 3, « Je vais vous préparer une place pour vous prendre avec moi. Je vais revenir, je vais vous prendre avec moi. Mais en attendant, je vais aller vous préparer une place. » Le Seigneur a dit qu'il allait revenir. Paul, dans 1 Thessaloniciens 4, versets 16 à 18, parle aussi du retour du Seigneur. Jean aussi, au début de l'Apocalypse, au chapitre 1er, versets 7 à 8. Donc, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament annoncent le retour du Seigneur. Et une autre raison qui pourrait nous réconforter à la pensée du retour du Seigneur, qui pourrait provoquer chez nous une certitude, c'est toute la description du plan de Dieu pour l'Église. John MacArthur, lui, il a donné au moins 10 raisons sur le retour du Seigneur dans son commentaire. Tu sais, donc, je ne vous citerai pas les 10. Mais je pense que cela est intéressant. C'est que Dieu a un plan pour l'Église. Quel est le plan pour cette Église? C'est que lorsque nous serons avec le Seigneur, nous assisterons aux noces de l'agneau. Et nous serons avec le Seigneur quand il va revenir nous chercher. Et il va revenir nous chercher pour que nous puissions assister aux noces de l'agneau. L'Église va être l'épouse et le Seigneur va être l'époux. Tu sais. Et le plan de Dieu implique que Jésus va revenir. Si Jésus ne revenait pas, oubliez la question des noces de l'agneau. Donc, comment être prêt pour le retour du Seigneur? C'est d'abord avoir la certitude de son retour. Mais c'est aussi en étant dans l'action. Et c'est le verset 35 de ce passage qui nous parle de cela. Restez en tenue de travail. J'ai mentionné ça, mais ben moi, ça m'est arrivé d'être pris alors que j'étais encore au lit. T'sais. C'est pas parce que je me lève à 11h le matin, ne vous inquiétez pas là-dessus. Mais j'ai mon fils qui habite la rue derrière chez moi. Et les enfants partent tôt à l'école. Et c'est arrivé à quelques reprises que les enfants viennent taper à la porte de la maison avec leur mère, t'sais. Alors qu'on est encore en train de dormir, ma femme et moi, mais assez tôt le matin. T'sais. Puis là, tu te réveilles, tu as les yeux encore fatigués, puis tu essaies de sauter vite du lit, parce que tu dis, il y a vraiment quelqu'un qui a frappé à la porte, là, il me semble qu'il y a quelqu'un qui a frappé à la porte. Là, mais je suis en train d'attendre personne. Non, je ne me prépare pas. T'sais. Mais Jésus nous dit, si vous voulez attendre son retour, il faut que vous soyez en tenue de travail, prêt. Vous ne sortez pas en pyjama, essayez de trouver votre robe de chambre, puis aller à la porte, les cheveux tout ébouriffés parce que vous sautez du lit, puis vous ouvrez la porte. C'est sûr que les gens qui se trouvent devant vous, ils savent que vous ne les attendiez pas. T'sais. Est-ce qu'on est des chrétiens qui attendent le Seigneur de cette manière-là? T'sais. Le Seigneur nous dit, mettez votre tenue de travail, gardez vos lampes allumées. Alors c'est certain que c'est toujours plus agréable de travailler quand il y a de la lumière, tu sais. Et d'utiliser des lampes, c'est utile le soir, c'est utile quand le jour commence à peine à poindre, c'est utile en plein milieu de la nuit. Gardez les lampes allumées, nous dit Jésus. Alors pourquoi rester sur le qui-vive en quelque sorte, pour attendre le retour du Seigneur? C'est que nous ne savons pas quand c'est qu'il va revenir. Et Jésus le mentionne en faisant référence aux noces. Aujourd'hui, vous allez à des noces, vous allez à, je sais pas, la noce est à 2h, vous partez à 1h, vous arrivez une demi-heure à l'avance, et puis vous assistez à la cérémonie, après ça, il y a la séance des photos, vous allez au repas le soir, et puis si vous êtes un peu plus âgé que les autres, vous allez rentrer à 10h le soir ou 11h, il y en a d'autres qui vont rentrer à 3-4h du matin, mais en fait, ça ne dure pas très longtemps, ça ne dure même pas 24h. T'sais. Donc, quand quelqu'un part à des noces, tu sais à peu près quand la personne va revenir. T'sais. Mais ce n'était pas le cas au temps de Jésus. Parce que quand les gens étaient invités à des noces, les noces pouvaient durer plusieurs jours. Ils pouvaient même durer une semaine, tu sais, dépendamment du nombre des invités, dépendamment de ce qui a été préparé, etc. Donc en fait, quand tu partais à des noces, tu ne savais pas quand c'est que tu allais revenir. Alors si toi tu ne le sais pas, à combien plus forte raison, tes serviteurs ne le savent pas non plus. Donc si tu veux attendre ton maître, ben, il faut que tu sois prêt tout le temps. Pour pouvoir lui ouvrir la porte quand il va frapper à la porte en arrivant. Alors, être prêt, c'est être alerte. Vous savez, quelqu'un qui est alerte, là. Il est prêt mentalement. Il est prêt physiquement. Tu sais. Est-ce que c'est de cette manière-là que vous attendez le Seigneur? Est-ce que c'est de cette manière-là que nous attendons le Seigneur? Donc, premièrement, avoir la certitude du retour du Seigneur. Deuxièmement, en étant dans l'action. On est dans l'action. Bien sûr, si vous cherchez premièrement le royaume de Dieu, vous allez être dans l'action. Vous voyez comme les textes, les idées du texte sont liées les unes aux autres. Si c'est une question de cœur, nous allons être en action. Tu sais. Troisième élément, pour pouvoir mieux comprendre comment être prêt, c'est le verset 37 et 38. Il est question ici d'une bénédiction. Vous savez, vous pouvez être prêt au retour du Seigneur aussi parce que vous êtes conscient qu'il y a une bénédiction rattachée à son retour. Tu sais, je ne veux pas être prêt pour le retour du Seigneur juste parce que il faut le faire, là, tu sais, puis c'est mon devoir. Là, tu sais, puis... Non, non, le Seigneur nous encourage en faisant allusion au verset 37 à une bénédiction. Heureux ses serviteurs. Remarquez qu'au début du verset 37 et à la fin du verset 38, on retrouve les mêmes paroles à la fin du verset 38. Heureux ses serviteurs. Donc Jésus est en train d'utiliser ce qu'on appelle une inclusion. C'est-à-dire qu'il va présenter une idée centrale qui est encadrée par une bénédiction. Heureux. L'homme qui sait comment attendre son maître. Tu sais. Et ce mot heureux, on le connaît. Hein. On le lit, on le retrouve dans le chapitre 1, le premier psaume, là, verset 1. Heureux, béni, hein, c'est la même chose. Et d'ailleurs, dans la version grecque du psaume 1, C'est le même mot qui est employé dans Psaume 1 qu'ici. C'est le même mot qu'on retrouve dans les béatitudes. Heureux les pauvres en esprit, heureux les artisans de paix, heureux les doux, etc. Heureux, on peut le remplir par bénir. Il est question ici d'une bénédiction pour celui qui attend le retour du Seigneur et qui est prêt pour son retour. Et c'est d'ailleurs ce que Jésus dit au verset 37, puisqu'il va nous présenter les gens à qui cette bénédiction s'adresse. Elle s'adresse à chacun d'entre nous si nous attendons le retour du Seigneur. Vous êtes bénis parce que vous attendez le retour du Maître. C'est ce que Jésus nous dit. Alors, en fait, la bénédiction s'applique plutôt au moment où le Seigneur va revenir. Mais on est béni parce qu'il y a quelque chose qui est en réserve pour nous, comme on va le voir dans quelques instants. Donc, elle s'adresse à tous ceux qui attendent et qui veillent, aux gens qui sont vigilants, c'est ça. Donc, il y a une bénédiction qui nous attend là. Et quelle est cette bénédiction? Cette bénédiction nous est décrite au verset 37, la deuxième partie du verset 37. Et le texte nous parle d'un rôle renversé. Vous savez, comme on dit en anglais, là, upside down, tout est renversé. Parce que quand le maître arrive, les serviteurs qui sont contents de le voir, ils ouvrent la porte et ils sont heureux de le voir. T'sais, parce qu'ils ont travaillé pour être prêts. T'sais. Puis ils vont demander au maître comment ça s'est passé, tes noces. Et puis le maître va donner des détails et puis il va partager avec ses serviteurs ce qu'il a vécu. Imaginons-nous un petit peu la scène. T'sais. Et puis à un moment donné, le maître il dit à ses serviteurs, « Bon, écoutez, chers serviteurs, là, chers fidèles serviteurs, maiment asseyez-vous. » Enfin, il ne s'assoit pas pour manger à l'époque, il s'allongeait. « Asseyez-vous, et puis maintenant c'est moi qui vais vous servir. » Vous vous rendez compte? Les serviteurs qui sont au service du maître, ils entendent ce maître leur dire « Asseyez-vous, c'est moi qui vais vous servir. C'est moi qui remets la tenue de travail, c'est moi qui vous fais asseoir, et moi je vais passer auprès de vous, un après l'autre, puis je vais vous servir. » Tu te rends compte? Quel honneur! Quel honneur, quelle bénédiction que le Seigneur fait lorsqu'il agit ainsi. D'ailleurs, ça nous fait penser à Jean au chapitre 13. Vous savez, dans ces chapitres qui parlent un peu du testament de Jésus avant de mourir, là, il va bientôt mourir, Jésus. Là. Et Jésus dit à ses disciples, maintenant je vais vous laver les pieds. Oh non, 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 Seigneur, tu ne vas pas me laver les pieds, dit Pierre. Il était choqué. Ça, c'était le travail d'un esclave. Mais Jésus, le maître, prend le rôle d'un esclave. Et ça, c'est extraordinaire de voir que ce lavement des pieds est un acte symbolique de l'incarnation de Jésus comme serviteur, parce que Jésus est venu, il s'est incarné comme serviteur pour accomplir sa mission sur la terre. Ça fait partie de sa mission de Jésus d'être un serviteur, c'est pour nous. Et le lavement des pieds est aussi un acte prophétique du repas de l'agneau auquel nous allons être invités. Donc, Jésus, ici, prend ses serviteurs fidèles et les honore en les servant à son tour. Quelle bénédiction! C'est nous qui allons être servis par le Seigneur. Il a lavé les pieds de ses disciples. Le Seigneur est aussi dans sa grandeur, dans sa gloire, dans sa magnificence, dans son autorité, dans sa toute-puissance, il est aussi notre serviteur, tu sais. Non pas pour faire tous nos désirs, tu sais, mais pour nous montrer tout son amour envers nous. Alors, dernier élément, comment être prêt, après avoir regardé que la certitude du retour de Jésus est importante, après avoir regardé qu'on ne peut être prêt que dans l'action, on peut être prêt parce qu'on croit que le Seigneur a une bénédiction pour nous, mais on peut être prêt aussi si on agit comme un maître de maison. Le maître de maison, versets 39 à 40, nous est décrit par Jésus. Ce maître de maison, il sait qu'il y a un voleur qui s'en vient. Et il sait le moment. Il sait l'heure, il sait la date, il sait tout. Là, tu sais. Mais que va faire le maître de maison? Quel va être son comportement? Mais il va se préparer. Je ne sais pas comment. Si c'est la nuit, il va peut-être allumer des lampes. Il va peut-être ramasser les voisins. Il va peut-être demander à tous ses serviteurs d'être là, tu sais, pour empêcher que le voleur n'entre dans la maison. Vous savez, à l'époque, c'était assez facile. Les maisons étaient construites plus ou moins en terre. Là. On pouvait faire des trous dans un mur et puis rentrer dans la maison, puis voler, là, tu sais. Et donc, le comportement du maître, c'est de s'assurer que le voleur n'entrera pas dans sa maison. Et dans ce passage, il y a un élément de comparaison. L'élément de comparaison se trouve d'une part entre le propriétaire de la maison qui va tout faire pour empêcher le voleur d'entrer, et d'autre part le serviteur qui attend la venue de Jésus sans savoir quand il va venir. Tous les deux doivent être prêts. Le propriétaire de la maison, il est prêt, il connaît l'heure. Le disciple du Christ, il doit être prêt, même s'il ne connaît pas l'heure. Donc en fait, dans cette comparaison, il y a un élément commun, c'est la vigilance, être prêt. Il y a aussi, bien sûr, une différence, c'est que dans un cas, le propriétaire sait quand le voleur va venir, dans l'autre cas, le disciple ne le sait pas. Mais ça ne change rien au fait que dans les deux cas, le disciple et le propriétaire de la maison seront prêts, doivent être prêts. Au verset 41, nous retrouvons les paroles de Pierre qui servent de transition entre les deux parties du texte. La deuxième partie du texte va nous parler de la récompense et du jugement. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, Jésus ne va pas directement répondre à Pierre, mais la question de Pierre sert un peu de transition. Et le Seigneur va parler dans ce passage qui nous présente la récompense et le jugement. Il va nous parler d'un gérant. Et là, ce n'est pas simplement un serviteur, mais c'est un administrateur. C'est un gérant. Versets 42 à 44. Et Jésus pose une question. Quel est le gérant fidèle et sensé à qui le maître confiera le soin de veiller sur son personnel pour qu'il donne à chacun, au moment voulu, la ration de blé qui lui revient? Heureux ce serviteur que le maître, à son retour, trouvera en train d'agir comme il le lui a demandé. En vérité, je vous l'assure, son maître lui confiera l'administration de tout ce qu'il possède. On va continuer la lecture. Mais si ce serviteur se dit « Bah, mon maître, il n'est pas prêt d'arriver, tu sais. » Et s'il se met à maltraiter les autres serviteurs et les autres servantes, il se met à manger, à boire, à s'enivrer. Son maître arrivera un jour où il ne s'y attendra pas. Il y a un moment qu'il ne connaît pas. Alors le maître le punira très sévèrement et le traitera comme on traite les esclaves infidèles. Le serviteur qui sait ce que son maître veut de lui, mais qui n'aura rien préparé ou qui n'aura pas agi selon la volonté de son maître, sera sévèrement puni. Mais celui qui n'aura pas su ce que son maître voulait et qui aura commis des actes méritant une punition, celui-là subira un châtiment peu rigoureux. Si quelqu'un a beaucoup reçu, on exigera beaucoup de lui. Et plus on vous aura confié, plus on demandera de vous. Alors regardons la question des récompenses, en particulier d'abord de la récompense du gérant fidèle. Donc au verset 42, Jésus pose une question. Une question. Quel est le gérant fidèle et sensé à qui le maître confiera le soin de veiller sur son personnel? Qui? Vous savez qu'aujourd'hui, le Seigneur, il cherche des intendants, des gestionnaires, des gérants fidèles qui vont pouvoir accomplir la tâche au nom du Seigneur. Est-ce que nous répondons présent? Est-ce que nous dirons, nous Seigneur, nous on aimerait être ton gérant. C'est, par ta grâce, Seigneur, on veut te servir avec fidélité. On veut accomplir ce que nous demande de faire. Vous savez que le gérant, à un moment donné, ben, il doit bien distribuer les rations de blé aux gens qui travaillent pour lui ou qui ont participé à la récolte. Donc il distribue les rations, ce gérant. Tu sais. Et le maître a besoin de quelqu'un de fidèle. Tu sais. Et le verset 43 nous dit que cet homme fidèle va être béni, verset 43, heureux ce serviteur, que le maître à son retour retrouvera en train d'agir comme il lui a demandé. Pour qui la bénédiction est-elle réservée? Elle est réservée pour celui qui met la parole en pratique. Celui qui agit selon ce qui est demandé. nous pouvons bien connaître la parole. Nous pouvons, en fait, le diable la connaît très bien, hein. Vous savez qu'il l'a utilisée pour tenter Jésus. Nous pouvons très bien connaître la parole, mais qu'est-ce qui fait une différence entre quelqu'un qui est un disciple et quelqu'un qui ne l'est pas? C'est que le disciple met en parole ce qu'il connaît, en pratique ce qu'il connaît. Et ce n'est pas très compliqué de connaître jusqu'à un certain point la parole de Dieu. C'est quelqu'un qui devient chrétien après 2-3 ans de formation biblique et puis d'assistance à l'église locale, il finit par comprendre. C'est un petit peu ce que c'est que le christianisme. Il finit par comprendre les grandes lignes. C'est. Mais l'important, ce n'est pas de comprendre seulement. L'important, c'est de mettre en pratique. Et vous savez comme moi, dans les pays où le christianisme a beaucoup d'influence, nous retrouvons en plus grand nombre des gens qui connaissent l'Évangile que peut-être au Québec où l'Évangile n'a pas beaucoup percé, pas encore en tout cas, mais on retrouve en plus grand nombre des gens qui connaissent l'Évangile mais qui ne le mettent pas en pratique. C'est dans l'Ancien Testament, moi quand je lis des textes de l'Ancien Testament, je me suis souvent posé la question, mais ça ne s'applique pas pour nous aujourd'hui. Là. Le peuple de Dieu, il en connaît des choses. Mais le peuple, Dieu lui reprochait de ne pas mettre en pratique ce qu'il connaissait. Tu sais. Mais je me dis, dans certains pays, la situation de l'Église est peut-être plus... ressemble davantage à certaines attitudes du peuple d'Israël dans l'Ancien Testament. Tu sais. Au Québec, on n'est pas très nombreux comme chrétiens. Donc ça ne ressort pas trop. En Corée du Sud, il paraît que si vous allez dans la rue, vous posez la question à quelqu'un, est-ce que tu as accepté Jésus dans ta vie, il va te répondre oui ou non. C'est, tu poses la même question au Québec, les gens te regardent avec des yeux, de quoi tu parles. C'est. Oui, l'Évangile a pénétré la société. Bien des gens ont entendu parler de l'Évangile. Mais est-ce qu'ils mettent en pratique ce dont ils ont entendu parler? Puis regardons aussi nos voisins du Sud, qui est un pays christianisé. Mais est-ce que les chrétiens mettent vraiment en pratique ce que la parole de Dieu enseigne? Et ici, Jésus nous dit, heureux ce serviteur qui agit comme je lui ai demandé. Et des fois, c'est dur d'agir comme le Seigneur nous demande. Parce que nous voulons suivre la parole de Dieu dans les domaines où nous jugeons que ça nous intéresse. Dont nous jugeons que c'est profitable. Mais si le Seigneur vient chercher quelque chose, de toucher quelque chose de sensible dans notre vie, c'est peut-être l'argent par exemple, l'honnêteté dans le travail, au lieu d'essayer de s'en mettre plein les poches de n'importe quelle façon, mais si le Seigneur vient toucher à mon portefeuille, alors que mon portefeuille c'est mon point sensible, est-ce que je mets en pratique ce que le Seigneur me dit? C'est dans l'éthique chrétienne, que ce soit le travail, l'honnêteté, que ce soit la sexualité, que ce soit... Il y a tellement de domaines. Et dans tous ces domaines, certains sont des points sensibles pour nous. Est-ce que j'accepte l'autorité du Seigneur dans ces domaines-là? Est-ce que je vais lui dire, oui Seigneur, je vais mettre en pratique ce que tu me dis? Vous savez, on dit aujourd'hui qu'il n'y a pas de différence, il n'y a pratiquement pas de différence entre un couple qui sort ensemble, qui est chrétien, puis un couple qui sort ensemble et qui n'est pas chrétien. C'est pas normal ça. C'est pas normal. Il devrait y avoir une différence dans la manière dont on vit les fréquentations. T'sais. Alors, ce gérant fidèle, bien, il y a donc un défi à relever, c'est de mettre en pratique la parole de Dieu. Et le Seigneur lui dit ben, qu'il recevra une récompense. Verset 44, le texte dit, « Je vous l'assure en vérité. » Donc Jésus, il veut vraiment rendre ça solide. En utilisant l'expression « en vérité », je vous le dis, « son maître lui confiera l'administration de tout ce qu'il possède. » Ça, c'est une promesse à venir. Si tu es un gérant fidèle, quand tu seras avec le Seigneur va te confier l'administration de ses biens. Et nous savons dans le reste du Nouveau Testament que, par exemple, dans la parabole des mines, que le Seigneur va confier à celui qui a fait fructifier une mine, ou la parabole des talents dans Matthieu, dans Luc, il est question des mines. Une mine, c'est une pièce d'or qui équivaut à 100 journées de travail, c'est environ. Donc 100 journées de travail, si un salaire moyen, c'est 60 000 $, n'est-ce pas? Donc peut-être ça équivaut à 20 000 $. Le Seigneur, il a donné 20 000 $ à quelqu'un, il lui a dit maintenant je veux qu'il fasse fructifier. Et puis dans la parabole des talents, dans Matthieu 25, le talent, c'est 10 fois le salaire annuel, tu sais. Ah ça c'est un gros montant là, tu sais. Alors 10 fois 60 000 dollars, ça représente pas mal. T'sais. Mais dans les deux cas, dans les deux paraboles, même s'il y a certaines différences, Jésus dit que ceux qui ont fait fructifier ce que le Seigneur, le Maître, a donné, à eux, on leur donnera la gestion d'un certain nombre de villes. Alors, on ne sait pas trop quelles vont être les récompenses. Mais ça nous dit qu'il va y avoir des récompenses. Et que les récompenses ne seront pas toutes les mêmes. Ça va être en fonction de notre fidélité. Alors, le Seigneur ne veut pas qu'on marche avec les récompenses comme un âne avance avec une carotte au bout d'un bâton. Là, tu sais, là. C'est pas les récompenses qui doivent nous motiver. C'est l'amour pour Dieu qui doit nous motiver. Mais quand même, le Seigneur nous encourage en nous disant, vous travaillez aujourd'hui comme mon gérant fidèle, ben, t'investis pour l'éternité. Et ça va dépendre, et ton action d'aujourd'hui, ta fidélité d'aujourd'hui, va déterminer le rôle que tu vas avoir dans l'éternité. Vous vous rendez compte? En pensant que la vie sur la terre est passagère, est-ce que ça ne vaut pas la peine d'être un gérant fidèle à la lumière de l'éternité? Donc, la récompense du gérant fidèle. Mais il est question aussi, dans les versets 45 à 46, de la punition de celui qui est infidèle. Alors, celui qui est infidèle, au verset 45, il dit, « Oh, mon maître, il n'est pas prêt de venir. » Alors, parce qu'il n'est pas prêt de venir, je peux faire ce que je veux. Vous savez qu'Amar Djabela, qui était doyen à la faculté, a dit, il le disait plusieurs fois, je l'ai entendu dire plusieurs fois, nous agissons toujours selon ce que nous croyons. Est-ce que tu es prêt pour son retour? Si tu me dis oui, il y a un test qui va me permettre de savoir si c'est vrai. Si moi je dis oui, il y a un test qui va vous permettre de savoir si c'est vrai. C'est mon action. Comment est-ce que je vis? Mes paroles ne suffisent pas. Est-ce que j'agis selon ce que je crois? Alors, cet infidèle, il n'est pas simplement paresseux ou nonchalant, mais il est monstrueux. Oh, il ne viendra pas, le maître. Et j'en profite pour maltraiter tous les autres serviteurs, les servantes. Je mange, je bois, je m'enivre, je m'enivre. Mais voilà que même s'il est monstrueux, un jour, son maître arrivera. Et il réservera pour cet infidèle serviteur une punition sévère. Et le verset 46 nous donne une petite indication de qui il s'agit. Le verset 46 nous dit, le maître le punira très sévèrement et il le détruira, nous dit Second, je pense. Hein? Ça ne veut pas dire détruire qu'il va, il va le faire disparaître, tu sais, il va complètement disparaître parce qu'après, il nous dit, il le traitera comme on traite des esclaves infidèles. C'est-à-dire, il va être puni, là. Il va être écrasé, il va subir le châtiment du Seigneur. Et le texte nous dit qu'on va le traiter comme un esclave infidèle. Le mot infidèle ou fidèle, c'est le même mot qui est traduit par croyant ou incroyant. Donc ici, cet homme va être traité comme un incroyant. En fait, cet homme est un incroyant, puisqu'il n'a pas cru que son maître était prêt de venir. Et il n'a pas vécu en conséquence de cela. Donc il va être puni. Et les versets 47 et 48 vont nous parler de la punition et de la justesse de la punition. C'est bien beau de punir, mais il faut aussi punir avec justice. Et les versets 45 à 46 nous parlent de la juste punition que le maître va exercer. Alors le verset 47 nous dit que le serviteur qui sait ce que son maître veut et qu'il n'aura rien fait, il va être puni sévèrement. Donc, quand tu sais, tu n'as pas d'excuse. Mais le verset 48 va nous dire, si tu es un serviteur qui ne connaît pas tout, bah, tu seras puni, mais moins sévèrement, parce que tu ne connaissais pas très bien la volonté du maître. Ça me fait penser au texte de Jacques, au chapitre 3, verset 1, qui nous dit que vous ne soyez pas nombreux à enseigner parce qu'on va vous demander davantage du compte. Et comme je l'ai déjà mentionné, là, quand j'étais à l'église, à l'île Jésus, à un moment donné, il y a un jeune qui est arrivé, que je connaissais depuis plusieurs années, dans une ancienne église, il était là avec sa famille. Puis après la prédication, il vient me voir, il était content de me voir. « Hey, pasteur, est-ce que vous avez besoin de prédicateurs à l'église, là ? Moi, je pourrais prêcher, j'aimerais ça enseigner, tu sais. » Ah, ça fait des années que je ne l'ai pas vu. La première fois qu'il vient à l'église, et il se présente. Mais est-ce qu'il comprend l'implication quand tu enseignes, qu'on va te demander beaucoup plus que celui qui en sait moins, tu sais ? Et je préfère entendre quelqu'un qui a certaines réticences à se proposer, parce qu'il comprend les implications, quelqu'un qui a vraiment le don du Seigneur, qui a des réticences, parce qu'il connaît les implications, que de voir quelqu'un qui ne tient pas compte des implications, puis qui veut se proposer comme volontaire, là, tu sais, de façon facile. Là. Moi, je peux prêcher si tu as besoin de quelqu'un. Là, tu sais. Une juste punition. Terminons avec cette question de principe qui nous est rapportée au verset 48. Jésus va élargir ce qu'il enseigne au verset 48 en disant celui qui n'aura pas su ce que son maître voulait et qui aura commis des actes méritant une punition, celui-là subira un châtiment peu rigoureux. Et voilà maintenant le principe. Si quelqu'un a beaucoup reçu, on exigera beaucoup de lui. Et plus on vous aura confié, plus on vous demandera de vous. Ah, vous pouvez dire, moi, je suis un petit chrétien, je n'ai pas trop de dons, le Seigneur ne m'a pas trop confié grand-chose, je vais m'en tirer pas mal, tu sais. Parce que moi, je ne connais pas trop de choses, donc je n'aurai pas trop de punitions, tu sais. Mais écoutez, réfléchissons un petit peu, là. En tant que chrétien, avons-nous pas tous reçu beaucoup ? Quel que soit votre rôle dans l'Église, quels que soient les dons que vous avez reçus, n'avons-nous pas tous reçu beaucoup ? Nous avons reçu l'Ancien Testament, nous avons reçu le Nouveau Testament, nous avons reçu l'Esprit de Dieu. Tu sais, le message de l'Évangile, les anges voulaient y plonger les regards, tu sais. Ben nous, on l'a reçu. C'était pour nous, tu sais. Le salut en Jésus, le pardon de nos péchés, la promesse du Saint-Esprit qui est tout le temps avec nous, qui nous dirige, qui nous conduit, même quand on a à répondre de notre foi, tu sais. Jésus le dit au début du chapitre 12, tu sais. On a tellement, tellement, tellement reçu. En plus, Dieu nous considère comme la prunelle de ses yeux, tu sais. Puis il prend soin de nous, tu sais. Il nous aime, tu sais. Et plus que cela, en tant que chrétiens, nous avons 20 siècles d'histoire d'Église derrière nous. Et nous sommes privilégiés. Il a fallu plusieurs siècles pour que certaines doctrines soient établies par des conciles. Mais là, ces conciles sont passés. Ces doctrines ont été clarifiées. On arrive à la réforme, où les questions de la justification par la foi, notamment, tu sais, bien d'autres éléments que la réforme nous a apportés. Tu sais. Mais ne sommes-nous pas tous privilégiés ? Nous avons Internet comme outil depuis la pandémie, ce qui nous permet d'avoir accès à toutes sortes de bonnes prédications. L'Évangile n'a jamais été aussi prêché, annoncé, enseigné de par le monde à travers Internet. Ah bien sûr, il y a un triage qu'il faut faire. Hein. Il y a des fois des évangiles, comme dit Paul, qui ne devraient pas être prêchés. Il n'y en a pas d'autres évangiles. Tu sais. L'évangile de la prospérité, ce n'est pas l'évangile. L'évangile qui consiste à te donner une meilleure image de toi-même, là, tu sais, là, pour t'épanouir, c'est pas ça l'évangile. Tu sais. Donc méfions-nous de ce que nous écoutons. Mais tout de même, quel privilège nous avons. Nous avons reçu beaucoup. Et non seulement nous avons reçu beaucoup, mais le Seigneur, il nous a donné des dons. Nous sommes des ressources pour l'Église. Ah, peut-être que je suis la main, peut-être que toi t'es le pied, peut-être que toi t'es l'œil, mais chacun d'entre nous, nous avons reçu des dons. Et le Seigneur nous appelle à les mettre en pratique, à son service. Et même si vous avez reçu des petits dons, entre guillemets, Paul nous dit que ces petits dons sont utiles. Comme les petits organes du corps qui semblent inutiles au premier abord, mais qui sont quand même utiles. T'sais. Nous sommes tous appelés à être des serviteurs fidèles devant le Seigneur, quels que soient les dons que nous avons reçus. En conclusion, j'aimerais vous présenter trois types de serviteurs. Parce qu'en fait, ce texte nous présente trois types de serviteurs. En fait, nous sommes tous des serviteurs. Tous les êtres humains sont des serviteurs de Dieu. Soit ils sont des serviteurs fidèles, ou soit ils sont infidèles. Si Dieu nous a créés, c'est lui le maître. Il est le maître de tout le monde. T'sais. Mais le premier type de serviteur, c'est le croyant, dont il est question dans les versets 35 à 40. et dans les versets 42 à 44. Ce serviteur fidèle qui met son habit de travail, qui allume sa lumière, qui attend la venue du Seigneur et que le Seigneur va servir. Ça, c'est le serviteur croyant, n'est-ce pas? C'est ce même gérant-là dont on vient de parler, qui, lui, va distribuer à tout le monde la part de blé qui lui revient. Il est fidèle. Le deuxième type de serviteur, c'est celui qu'on appelle aujourd'hui le chrétien nominal. Vous savez que des chrétiens, il y en a dans le monde, hein, des millions. Mais est-ce que ce sont tous des professants? Des chrétiens qui professent leur foi, qui professent un changement de vie, des gens qui ont été transformés par le Saint-Esprit? Ou est-ce que ce sont des chrétiens qui sont des chrétiens par tradition, qui n'ont jamais expérimenté la conversion, la nouvelle naissance, qui n'ont jamais été transformés, mais qui ont adopté une tradition chrétienne? N'est-ce pas? Ça, il s'agit de cet homme qui nous est décrit dans à partir du verset 45. Ouais, mon maître, hein, il n'est pas prêt de venir. Ouais, c'est quand même mon maître, mais il n'est pas prêt de venir. Donc, je peux me comporter un petit peu comme je veux sans vraiment préoccuper des consignes du maître. Et aussi, le troisième type de serviteur, ce sont les serviteurs qui n'ont pas vraiment entendu beaucoup parler du maître. Vous savez, on pose souvent la question, oui, mais mon arrière-grand-mère qui n'a jamais entendu parler de Jésus, est-ce qu'elle va aller au ciel? Est-ce qu'elle va être sauvée? Ben écoute, ton arrière-grand-mère qui n'a jamais entendu parler de Jésus, Dieu lui a tout de même parlé, à travers sa conscience, à travers la création, Dieu parle. Les cieux révèlent la gloire de Dieu, révèlent la divinité de Dieu, la puissance de Dieu, nous dit Paul dans l'Épître aux Romains, chapitre 1er, tu sais. Dieu te révèle sa divinité et sa puissance. Qu'est-ce que tu fais de cette connaissance que Dieu met dans ton cœur? Est-ce que tu te tournes vers lui? Ou est-ce que tu te rebelles contre lui? Il y a donc, d'après ce texte aujourd'hui, trois types de serviteurs. Quel genre de serviteur es-tu? Es-tu un croyant pour qui ce matin le texte te rappelle d'attendre le Seigneur avec fidélité? Es-tu un chrétien de nom, simplement? Vous savez que les chrétiens nominaux, plus l'évangile se répand dans un pays, plus il y en a. Puis au Québec, peut-être on pense qu'il n'y en a pas beaucoup, mais je crois qu'il y en a même encore dans nos petites églises au Québec, des chrétiens de nom, simplement, qui n'ont pas été transformés. J'ai un exemple à vous donner. À l'église où j'étais, il y a un homme qui est devenu diacre, qui s'est marié, est devenu diacre assez jeune, dans la vingtaine, et quelques années plus tard, lors d'une réunion, il s'est avancé pour donner sa vie au Seigneur. Ben, c'est un chrétien de nom. Et sa femme a été choquée, parce qu'elle l'a épousé en croyant qu'il était chrétien. Il n'était pas sauvé. Donc, est-ce que tu es un chrétien nominal, un chrétien de nom, ou est-ce que tu es simplement quelqu'un qui peut voir la puissance et la divinité de Dieu dans la création, mais qui ne l'honore pas comme son Dieu, qui n'a pas connu la transformation qu'opère Jésus dans notre vie, Jésus qui pardonne nos péchés, Jésus qui nous sauve, Jésus qui nous délivre, Jésus qui fait de nous un enfant de Dieu? Qui es-tu cet après-midi? Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour ta parole. Merci pour cet encouragement à être des serviteurs fidèles. Et Seigneur, merci parce que oui, nous t'attendons, nous croyons en toi, tu nous as transformés, mais parfois nous ne mettons pas la tenue de travail. Et notre lampe est peut-être pas toujours allumée. Seigneur, corrige-nous, nous t'en prions, afin que nous puissions t'attendre de façon active, afin de pouvoir nous réjouir lorsque tu vas revenir et que tu vas nous prendre avec toi. Seigneur, peut-être cet après-midi, il y a parmi nous des gens qui portent simplement le nom de chrétien sans avoir été transformés dans leur vie. Et Seigneur, ce n'est pas parce qu'on fréquente une église qu'on est chrétien. Mais si c'est le cas, Seigneur, je te prie pour que cette personne puisse réellement te rencontrer et être transformée par toi. Et Seigneur, peut-être qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas préoccupés de toi, mais tu nous as quand même parlé au travers de la nature. Mais Seigneur, que ta nature qui parle d'un créateur puisse nous attirer à toi, pour que nous puissions te découvrir non seulement comme le Créateur, mais comme le Seigneur et Sauveur de notre vie. Amen.